Excellent connaisseur du monde grec et romain, l'apôtre Paul savait en quoi la bonne nouvelle de la vie en Jésus-Christ et l'espérance qu'il nous apporte contrastait avec ce qui nourrissait l'imaginaire et les croyances d'alors autour de la Méditerranée. Paul évidemment connaissait le mythe grec de Pandore, avec tous les malheurs sortis de sa boîte ouverte pour frapper l'humanité. Et tout au fond de la boîte, le mythe dit qu'il ne restait aux hommes que l'espoir. Mais cet espoir, cette espérance, puisque c'est le même mot en grec, contient encore quelque chose de sombre, car elle est faite, cette espérance, en même temps d'attente de l'avenir et en même temps de la crainte qu'il soit toujours incertain. Bref, pour le grec, l'espoir est une promesse qui pourrait bien ne jamais se réaliser. La religion maintenant toute pragmatique du monde romain, quant à elle, avait personnifié l'espoir dans la personne de la déesse Spes. Son culte, nous dit-on, était lié à des besoins sociaux très concrets, exprimés surtout par des rites et des vœux pour l'empereur, afin de favoriser un développement heureux de l'Empire. Quant au reste, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains, leur vie était marquée par le destin, par un destin inéluctable et bien peu d'espoir en vérité. Le sachant, mes amis, vous pouvez en conséquence mesurer le complet décalage avec ce que l'apôtre Paul écrit à ses destinataires chrétiens de la ville grecque de Corinthe quand il leur affirme que, je cite, « trois réalités sont essentielles, la foi, l'espérance et l'amour ». Autrement dit, trois choses demeurent et sont essentielles pour votre vie de tous les jours. Ce qui compte, ce n'est pas le destin qui ferait de vous des marionnettes, non. Le fondement sur lequel vous pouvez construire votre existence tout entière, ce sont la foi, l'espérance et l'amour. Or donc, ce matin, l'Évangile nous invite à découvrir comment et en quoi l'espérance est primordiale pour notre existence, elle qui donne une perspective à notre vie. Car l'homme, pour sa vie, nous le savons tous, a non seulement besoin de confiance, mais besoin également d'espérance. Or, à nous aussi aujourd'hui, comme dans le monde grec et dans l'Empire romain, les auteurs du Nouveau Testament nous montrent que la foi se nourrit de l'espérance. Sans espérance, notre foi est malade. Souvent, les gens disent « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». C'est vrai. Mais on pourrait dire aussi « tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie ». Ôter l'espoir du cœur d'un homme, c'est lui retirer le goût d'aller de l'avant, d'entreprendre, de prier et d'agir. Nous avons besoin de croire, d'être certain que demain n'est pas un jour fermé, qu'il y a pour chacun de nous un avenir possible, qu'il y a encore des choses bonnes et positives qui vont se produire, des choses même qui risquent de nous surprendre et de nous étonner. Cela dit, le mot « espérance » est parfois mal compris. Dans notre langage quotidien, il comporte souvent une pointe d'incertitude qui rejoint celui des Grecs de jadis. Par exemple, nous espérons que le temps va changer ou qu'un ami viendra nous rendre visite. Espérance, espoir, de quoi parlons-nous? En fait, le dictionnaire ne fait pas grande différence entre les deux mots. Pour lui, tous les deux signifient l'attente, le désir, le souhait que quelque chose arrive, quelque chose qui ne s'est pas encore produit et dont on attend la réalisation. C'est donc de l'ordre du futur, et cela contient forcément de l'incertitude. Cependant, dans le langage de l'Évangile, le mot « espérance » est une certitude fondée sur l'amour et la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. L'espérance est ainsi pour un chrétien une puissance pour vivre et pour agir. Mais plus fondamentalement encore, notre espérance se fonde sur le fait que Jésus est bien ressuscité et que cela change tout, car lui prononcera le dernier mot sur toute chose et sur nos vies à chacun. Et c'est bien pour le souligner que l'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, leur écrit au premier chapitre de sa lettre, je le cite, « Je prie le Seigneur pour qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez quelle espérance il vous appelle, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Pour parler de ceux qui n'espèrent plus rien, un de mes amis les appelle les gens bras au ciel, eux qui, pour un oui ou pour un non, lèvent leurs bras en l'air en une sorte de plainte fataliste pour dire « il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à attendre, les bras levés au ciel ». Et puis, il y a encore une autre forme de désespoir qui consiste à penser qu'on est forcément déterminé par ce qu'on a vécu, fatalement lié à son passé, à son éducation, à ses parents, que sais-je. Et ne dit-on pas parfois qu'il n'y a rien de bon à attendre de tel ou tel individu au vu de son passé? Que voulez-vous attendre de tel ou tel qui a fait ceci ou cela? Et parce que les autres n'espèrent plus rien de moi, n'attendent plus rien de moi, alors là aussi l'avenir m'apparaît comme fermé, bouché. Or, la bonne nouvelle qui nous est annoncée et dont nous témoignons, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il a remporté la victoire sur le mal et la mort qui n'ont pas pu le retenir. C'est sur cette réalité que se fonde notre espérance et qui nous permet d'expérimenter, par sa présence dans nos cœurs, par son esprit en nous, que Jésus est toujours vivant et qu'il tient notre vie entre ses mains. Et cela change tout, puisque nous sommes en droit de croire que Jésus est capable de guérir, de sauver, de changer le mal en bien, de prendre soin de nous, de métamorphoser notre vie. Oui, notre foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et en cela, l'espérance est bien aussi l'autre facette de la foi, comme le côté face l'est du côté pile de la pièce de monnaie. Et plus encore, mes amis, notre espérance en Christ transcende notre présent et impacte notre éternité. L'espérance est donc indispensable à la vie, celle de maintenant et celle de demain. Mais à l'inverse, trop d'espérance peut également conduire à la passivité et à la mort. Rappelez-vous, pendant la guerre de 39-45, ces hommes et ces femmes, innombrables, emmenés comme des bêtes à l'abattoir pour être conduits dans des camps d'extermination. Le sachant, les nazis ont été à ce point cruels qu'ils leur ont laissé de l'espérance jusqu'au dernier moment. Et nous disent les historiens, leurs victimes ont voulu croire qu'ils s'en sortiraient malgré tout, et la plupart n'ont pas réagi, n'ont rien tenté, n'ont rien entrepris. À l'inverse, un prisonnier qui a connu lui aussi l'horreur des camps, pratiqué cette fois par le système soviétique, Alexandre Soljenitsyn, a décrit dans son livre « Le premier cercle » comment une personne à qui l'on a enlevé toute espérance et qui a déjà tout perdu peut néanmoins trouver le courage de se battre pour essayer désespérément, c'est le mot utilisé par Soljenitsyne, de faire que les choses changent. Et pour lui, paradoxalement, cette attitude est l'expression d'une certitude et d'une espérance fondamentale, l'espérance de notre liberté et de notre dignité humaine, l'espérance qu'il nous faut user de cette liberté et de cette dignité, que nous avons à nous battre contre le faux déterminisme du pouvoir et de la terreur absolue. Bref, nous avons besoin d'espérance pour vivre, pour ne pas être ni figés dans le passé et ne plus voir l'avenir, ni inversement, être obnubilés par l'avenir au point de s'accrocher passivement à n'importe quoi. Nous avons besoin d'une espérance qui nous libère du découragement et qui nous donne envie de vivre et de nous battre. Alors j'aimerais revenir sur ce texte du chapitre 19 de l'évangile de Luc que nous avons entendu tout à l'heure. Un récit qui ne parle pas de l'espérance que le chrétien peut mettre en Dieu pour son avenir, mais qui évoque assurément l'espérance de Dieu. Non pas l'espérance du chrétien, mais bien l'espérance de Dieu. Car Dieu lui aussi espère. Dieu est lui aussi habité par l'espérance. Dieu a besoin, en quelque sorte, lui aussi d'espérer. En fait, tout l'Ancien Testament, déjà, évoquait l'espérance que Dieu a placée dans son peuple. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham, affirme Jésus à propos de Zachée, alors que tous ses voisins pensaient « Mais que peut-on encore attendre de bon de ce pourri qui collabore avec l'ennemi de ce type malhonnête, catalogué peu recommandable ?» Mais Jésus espère. Et parce qu'il espère, il ouvre de l'avenir, il ouvre un espace de possibilités humaines. Et parce qu'il a une porte qui s'ouvre devant lui, alors Zachée peut y pénétrer, lui qu'on avait jusque-là enfermé. Oui, l'espérance de Dieu nous met en route, mais Dieu lui-même en mouvement et fait que Dieu envoie des prophètes, envoie son Fils et envoie encore aujourd'hui son Esprit. Dès lors, aucun d'entre nous ne vit une situation véritablement sans issue, ni n'a un passé à ce point chargé qu'il le ferme à tout jamais à l'avenir que Dieu veut pour lui. Parce que Dieu espère en chacun de nous, il intervient. Il croit que quelque chose peut se produire, un changement de vie, une ouverture, une espérance, une confiance nouvelle, de la joie, de la paix, et tout cela est encore dans l'ordre du possible. Oui, si nous réfléchissons un instant à cette espérance que Dieu met en nous, bien des choses peuvent changer pour nous. Nous pourrions y forger notre propre espérance et nous laisser entraîner par cette formidable espérance que Dieu manifeste. C'est cette espérance de Dieu qui nous permet à notre tour d'espérer. Et je le répète, si j'espère, c'est donc aussi parce que Dieu lui-même espère en moi. Je peux m'appuyer non seulement sur son amour et sa fidélité, je l'ai dit, mais également sur son espérance à lui, l'espérance que Dieu le premier met en nous. La foi, l'espérance et l'amour sont indispensables pour nos vies. Mais alors il faut souligner maintenant que jamais le contenu de l'espérance ne nous est donné, comme il le serait pour le programme d'un spectacle ou comme le déroulement d'un voyage organisé en car. Non, l'espérance reste toujours quelque chose d'ouvert. C'est comme pour le montagnard qui part pour une ascension et qui ne connaît pas le sommet, qui ne sait pas quel paysage à l'avance il va découvrir. mais il est en route et il se réjouit du but, il se réjouit de ce qu'il va découvrir. Il n'a donc pas de préjugés, il ne s'attend pas à quelque chose de précis. Il est ouvert à ce qui va lui être donné, à ce qui va advenir. Eh bien, l'espérance chrétienne, c'est cette ouverture. Je n'attends rien de particulier, mais je m'attends à tout avec Dieu. J'ai les yeux grands ouverts sur ce que Dieu va me donner. Maintenant, c'est vrai qu'il est dommage que certains aient des idées à ce point précises, à ce point toutes faites sur les gens et les choses, que si la réalité ne correspond pas à leurs attentes ou à leurs espérances, ils sont immanquablement déçus et amers. Ce qui arrive n'étant pas conforme à ce qu'ils attendaient, ils passent à côté de ce que la vie leur apporte sans les voir. Et alors, ils peuvent lever les bras au ciel. Eh bien, combien de fois nous aussi n'espérons-nous pas que Dieu va faire ceci ou cela, qu'il va nous donner ceci ou cela, que demain va se produire ceci ou cela? Et nous aussi, nous attendons et nous espérons des choses tellement précises parfois que nous ne voyons pas, nous ne voyons plus ce que Dieu nous donne. Alors dans nos prières, demandons-lui bien sûr des choses précises, oui, mais en même temps, demandons-lui qu'il nous donne de regarder un petit peu à gauche, un petit peu à droite, pour voir ce que lui veut réellement nous donner, nous apporter, nous montrer. Paul priait donc pour que le Seigneur ouvre nos yeux à sa lumière, afin que nous comprenions à quelle espérance il nous a appelés, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance, précise Paul, est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ, dit-il en conclusion, y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Fin de citation. Mes amis, ce n'est donc pas par hasard que nous trouvons plus de 300 références ayant trait au retour du Christ dans le Nouveau Testament. Pour l'heure, c'est vrai, la grande famille chrétienne n'est pas encore rassemblée auprès de Dieu le Père, de Jésus-Christ son Fils et du Saint-Esprit dans son royaume de lumière et d'amour. Mais c'est bien dans cette perspective et pour nous y rassembler que l'espérance qui a animé et anime encore les chrétiens de tous les siècles nous permet d'affirmer que Jésus-Christ reviendra chercher les siens. Trois réalités ultimes demeurent, dit Paul, la foi, l'espérance et l'amour. Eh bien, l'espérance chrétienne est ouverture confiante et paisible, une attente sereine, active et confiante, car l'espérance, c'est la foi tournée vers demain, c'est la confiance en Dieu tournée vers l'avenir. Elle nous est essentielle, elle est en quelque sorte l'oxygène qui nous fait vivre, avec la confiance que notre avenir repose entre les mains de Dieu, lui qui a fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et c'est justement à cause de cela que Paul, en 1 Corinthiens chapitre 13, place ensemble la foi et l'espérance, à quoi il rajoute l'amour. Notre espérance en Christ transcende notre présent et impacte notre éternité. Frères et sœurs en Christ, puissions-nous, quoi que nous puissions traverser, vivre avec cette espérance-là. Alors, nous aussi, nous pourrons lever nos bras au ciel, mais non pas découragés ou amers, mais pour dire notre reconnaissance à celui qui renouvelle l'espérance que lui met dans nos cœurs. Le Seigneur a remporté la victoire sur nos échecs, nos larmes, nos maladies et nos souffrances. Croyez-le, espérez en lui. Il n'a pas dit son dernier mot. Soyez bénis. Amen.